Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le pape suit avec une grande attention la situation de l'église gréco-catholique d'Ukraine. Celle-ci fait part de ses inquiétudes suite à l'annexion de la Crimée par la Russie. Nous entendrons le témoignage d'un prêtre gréco-catholique sur place. Le Saint-Siège sera l'invité d'honneur du prochain Salon du Livre de Turin. Le cardinal Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture, nous expliquera quel est le sens de cette présence. Au sommaire de ce magazine, nous parlerons également du 9e art en rencontrant le père Christophe Adevis, scénariste de bande dessinée et récent lauréat de la BD chrétienne au Festival d'Angoulême. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Le pape suit avec beaucoup d'attention la situation de l'église gréco-catholique d'Ukraine. C'est ce que révèle un communiqué publié ce mardi par l'église grecque-catholique du pays au lendemain de son audience accordée au primat de cette église, sa béatitude Sviatoslav Shevchuk. En le recevant, le pape a affirmé que le Saint-Siège ferait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une escalade du conflit dans la région. François a également exprimé sa pleine solidarité au peuple ukrainien en ces heures graves et assuré que l'église gréco-catholique d'Ukraine ne manquera jamais de la protection du Saint-Siège. À la fin de cette audience exceptionnelle, le pape a accordé sa bénédiction apostolique au peuple ukrainien tout entier. L'Ukraine, comme le monde entier, ne reconnaîtront jamais l'annexion du territoire ukrainien. Les mots sont fermes et le ton déterminé. Ce sont ceux d'Oleksandr Tourchinov, le président ukrainien par intérim, quelques heures seulement après la signature par le président russe Vladimir Poutine d'un accord sur le rattachement de la Crimée à la Russie qui a pris effet ce mardi. Et Vladimir Poutine ne compte pas s'en arrêter là. Il a aussi annoncé la préparation d'un projet de loi pour que la péninsule ukrainienne devienne russe, tout en assurant qu'il ne souhaite pas la scission de l'Ukraine. Une déclaration qui est loin d'avoir convaincu le père Michel Dimid, prêtre de l'église gréco-catholique à Kiev.
La Russie n'a jamais réellement accepté le démembrement de l'Union soviétique. Et la Russie, dans la personne des politiques, des gens qui dirigeaient la Russie, a toujours dit que c'était une catastrophe pour elle. Moi, je suis convaincu que M. Poutine fait tout pour annexer une autre partie de l'Ukraine ou pour annexer la Moldavie ou la Transnistrie. C'est une partie d'un grand plan de renouvellement de l'ex-Union soviétique. C'est ce qui est en train de se dérouler. Et je crois que les amis polonais ont bien conscience de cela. Et c'est pour cela qu'ils alertent, comme ils sont membres de l'OTAN, de l'Union européenne, qu'ils alertent tous leurs collègues. Faites attention, intervenez, parce que la situation est très grave.
Est-ce que, selon vous, le pays pourrait basculer dans une guerre civile ?
Pas guerre civile, mais guerre contre l'invasion russe. Il n'y a pas de guerre civile, il n'y avait pas de guerre civile ni en Crimée, ni dans les parties de l'Est de l'Ukraine. Aujourd'hui, on a des preuves que ce sont les Russes qui ont organisé toutes les démonstrations anti-ukrainiennes, les débordements qui ont eu lieu la semaine dernière.
Parce que selon vous, les Ukrainiens et les Russes n'ont pas de difficulté à vivre ensemble en Ukraine.
Il n'y a pas de difficulté de ce genre. Si vous écoutez ou lisez les poètes, les intellectuels, les artistes, les gens de la société, eh bien, il n'y a personne qui vous dira qu'il a eu des difficultés de parler le russe ou de développer la culture ou la langue russe en Ukraine. C'est-à-dire, à mon avis, ce sont les Ukrainiens qui ont cette difficulté de développer leur culture. Vous devez savoir que nous sommes dans un pays post-colonial où la culture russe et la langue avaient la primauté sur toutes les autres langues. Bien sûr, si l'Ukraine est devenue indépendante, si l'Ukraine a sa propre langue, et si cette nation, ce gouvernement proclame cette langue comme la langue officielle, c'est tout à fait normal. Mais ça ne veut pas dire que la langue russe ne se développe pas, que les russophones n'ont pas de liberté, ils ont une liberté totale. Si vous regardez, par exemple, le nombre de journaux, 90% de la presse écrite est russophone en Ukraine. Si vous regardez les programmes de télé, eh bien aussi 80% des programmes de télévision sont en russe. De quoi on parle alors?
Et comment expliquez-vous alors la décision du nouveau gouvernement de supprimer la langue russe ?
Il n'y a pas eu de décision de suppression de la langue russe. Le gouvernement précédent avait donné des avantages à la langue russe. Et ce gouvernement a supprimé ces avantages en disant que la langue russe devait être au même niveau que les langues des autres minorités en Ukraine.
Concernant les fidèles gréco-catholiques, est-ce qu'ils craignent pour leur survie en Crimée ?
Non, je ne crois pas qu'ils craignent pour leur survie. Mais ça veut dire que si on parle de la Crimée, eh bien en premier lieu, il faut que nous ayons peur, pas pour nous les chrétiens, mais pour les Tatars de Crimée. Ont déjà été déportés quand la Crimée appartenait à la Russie par Staline. Et aujourd'hui, ça peut se répéter.
Donc vous pensez qu'ils ne sont pas en danger malgré qu'un prêtre ait été enlevé ?
Oui, ce sont des milices qui ont enlevé un prêtre, qui l'ont libéré peu après. Ça veut dire que je ne crois pas que c'est une chose très grave.
Et donc, les églises d'Ukraine ont joué un rôle ensemble pour rétablir la paix dans le pays. Elles ont parlé d'une même voix. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Celles qui ont parlé d'une même voix au Maïdan continuent à parler d'une même voix. La grande déception pour les églises, c'est que nous attendons quelques paroles de paix et quelques paroles de protection pour les Ukrainiens de la part du patriarche de Russie. Mais il n'y a pas de ces paroles. D'autre part aussi, si on écoute les églises de Russie, nous n'entendons rien contre la guerre. C'est-à-dire aucune de ces églises, même l'église catholique en Russie, n'a rien dit.
C'était le père Michel Dimide, interrogé par Audrey Radondi. Le carême est une période pour arranger notre vie, pour nous rapprocher du Seigneur. C'est ce qu'a souligné le pape lors de son homélie ce mardi matin à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. François, qui a mis en garde contre le fait de se sentir meilleur que les autres, les hypocrites, a-t-il averti, se déguisent en bonnes personnes. Ils ne comprennent pas que personne n'est juste de par soi-même. Une nouvelle homélie percutante à retrouver en intégralité sur notre site internet www.radiovaticana.va. Il y a un an, souvenez-vous, le 19 mars, en la solennité de Saint-Joseph, le pape François présidait la messe d'inauguration de son pontificat en présence de centaines de milliers de personnes. Une célébration très codifiée, riche en rituels et symboles. Devant 6 souverains, une trentaine de chefs d'État, une dizaine de chefs de gouvernement et les représentants de 130 nations et organisations internationales, le premier pape originaire du continent américain avait déjà donné le ton de son pontificat, Jean-Baptiste Cocagne.
Devant les nombreux officiels de tous les continents, le nouveau souverain pontife avait appelé les responsables économiques, politiques et sociaux à ne pas permettre que les signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre monde et invité tous les catholiques à ne pas avoir peur de la bonté et de la tendresse. Le pape avait également exhorté au respect des créatures de Dieu et de l'environnement. Debout, très souriant, celui qui avait pris le nom de François avait sillonné la place Saint-Pierre à bord d'une Jeep entièrement découverte pour saluer la foule qui l'acclamait, levant parfois le pouce en signe de connivence ou embrassant des bébés. Il était même brièvement descendu de son véhicule pour caresser le visage d'un handicapé. Puis, il avait reçu les emblèmes marquant le début officiel de son ministère pétrinien, le pallium et l'anneau du pêcheur en argent doré, représentant l'apôtre Pierre avec les clés. La simplicité de la tenue choisie par le nouveau pape, la sincérité de son langage, son aptitude immédiate à toucher les masses, avaient frappé les esprits, ainsi que son hommage à son prédécesseur Benoît XVI. Une grâce particulière s'était manifestée dès ses premiers moments, la presse saluant l'émergence spontanée d'un leader dans un monde en quête de grandes figures. La ferveur fut tout de suite planétaire. Le nouvel évêque de Rome avait montré qu'il avait quelque chose à dire, que la dignité de l'homme est indépendante de sa situation sociale et que l'Église demeure malgré tout un pilier de la stabilité du monde actuel.
Le cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, était attendu ce mardi au Soudan du Sud. Il devait être reçu par l'archevêque de Juba, Mgr Paulino Lukudu. Ce mercredi, le cardinal Turkson présidera une célébration eucharistique pour la bénédiction de la nouvelle paroisse Saint-Joseph. Un entretien est également programmé avec le président du Soudan du Sud, Salva Kiir. Cette visite dans un pays très tourmenté ces derniers mois s'achèvera dimanche prochain. Et puis autre voyage, celui du président du Conseil pontifical Coronum, le cardinal Robert Sarra, qui est au Guatemala. Le cardinal Sarra y est jusqu'au 21 mars afin d'inaugurer un ensemble de 19 maisons avec une chapelle, construite pour autant de familles grâce à un don du pape après les calamités naturelles qui ont frappé le pays durant l'automne 2011. Monseigneur Sarra qui doit rencontrer également les responsables de la Caritas locale ainsi qu'un collège pour jeunes déshérités. La coupole de la basilique Saint-Pierre à Turin est faite uniquement de livres. Ce sera le stand du Vatican au Salon international du livre de Turin qui se déroulera du 8 au 12 mai prochain. Le Saint-Siège est en effet l'invité d'honneur de ce rendez-vous littéraire. Sa maison d'édition, ses musées, sa bibliothèque apostolique et même ses archives secrètes participeront au pavillon. Le cardinal Gianfranco Ravasi, le président du Conseil pontifical pour la culture, est venu ce mardi matin expliquer le sens de cette participation.
Essere presenti in uno spazio internazionale dove si incontrano le voci più diverse.
Être présent dans un espace international où se rencontrent les voix les plus différentes, les langues et les cultures les plus diverses, mais aussi des dimensions spirituelles opposées. La deuxième voie qui s'ouvre devant nous est plus spécifiquement celle du livre. N'oublions jamais que la Bible, la parole Bible, signifie livre, et donc une des bases fondamentales de la foi est justement liée au livre. La troisième voie est une voie que je considère comme fondamentale pour l'Église, et plus particulièrement pour l'Église du pape François, c'est le dialogue. Le dialogue qui s'exprime à travers ces sources de pensée qui se cristallisent dans les textes.
Si esprime attraverso queste sorgenti di pensiero che si cristallizzano nei testi.
C'est aussi l'occasion pour vous, pour le Vatican, de dialoguer avec les non-croyants, comme le Parvis des Gentils.
Cortile dei Gentili riguarda incontro prima di tutto tra persone che pensano.
Le Parvis des Gentils concerne avant tout la rencontre entre des personnes qui pensent, c'est-à-dire que la distinction ne se situe pas initialement entre croyants et non-croyants, mais entre des personnes pensantes et non-pensantes. Et elles peuvent être aussi bien dans le monde chrétien, catholique, protestant, etc., que dans le monde non-croyant. Une autre dimension tout aussi importante est celle du fait de découvrir que toutes les fois où nous avons une production libraire, bibliographique, dédiée aux thèmes spirituels, nous observons un très vif intérêt, non seulement dans le monde catholique croyant, mais aussi dans le monde laïque.
Dedicata ai temi spirituali, noi vediamo un interesse vivissimo, non solo nel mondo cattolico, credente, ma anche un interesse vivissimo nel mondo laico.
Est-ce qu'il y a une politique culturelle du Vatican plus large? Je pense au Salon du Livre, mais aussi à la Biennale de Venise, à l'Expo 2015 de Milan, où le Vatican est présent.
Certamente, adesso cerchiamo tutte queste ribalte, queste tribune.
Nous cherchons évidemment toutes ces agora, ces tribunes, pour faire en sorte que le Saint-Siège, par sa nature universelle, puisse dialoguer avec le monde dans toutes ses variantes, variations et variables, dans toutes ces différences qui sont parfois polémique. Cela fait que j'ai choisi que le Saint-Siège puisse participer aussi à la Biennale de Venise, à l'Expo 2015 de Milan et puisse entrer dans beaucoup d'institutions, y compris l'Académie des sciences du prix Nobel de Stockholm, où nous avons fait une cour des gentils, là aussi, donc dans des environnements profondément sécularisés et laïques.
Compresa, per esempio, anche l'Accademia delle scienze del premio Nobel di Stoccolma, dove abbiamo fatto un cortile dei gentili, cioè in ambienti anche profondamente secolarizzati, là.
Des propos recueillis par Antonino Gallofaro. Et nous vous parlions à l'instant de la foire du livre de Turin. Évoquons à présent le 9e art pour clore ce magazine. Le père Christophe Adevis est prêtre à Vannes, mais pas uniquement. Depuis près de 10 ans, il est scénariste de bande dessinée. Début février, il a reçu une première récompense prestigieuse, le premier prix international de la BD chrétienne au célèbre festival d'Angoulême. Le jury a été touché par sa bande dessinée intitulée « Quelques écorces d'orange amère, une vie de Benoît Labre » parue aux éditions de l'Emmanuel. L'histoire raconte la vie d'un mendiant qui erre au jour le jour, convaincu de sa misère par rapport à la grandeur de Dieu. Le père Adevis est recteur de la paroisse de Notre-Dame de Lourdes de Vannes. Il a appris à lire avec la bande dessinée, mais jamais il n'aurait pensé en écrire une un jour, et surtout pas comme prêtre. Il nous raconte comment il est entré dans le monde du 9e art.
Lorsque j'étais curé à Chalon-sur-Saône, il y a quelques années, je voulais faire connaître la vie du saint patron de la paroisse, qui s'appelle Saint-Just de Bretonnière. qui est un homme qui est parti avec les missions étrangères de Paris, et je voulais prendre ce média pour mieux le faire connaître à mes paroissiens. Donc je me suis mis en quête d'un dessinateur ou d'une dessinatrice pour parler de ce saint-là. La bande dessinée, c'est comme une bande-annonce de cinéma. Le but, c'est d'aller voir plus loin, de connaître un petit peu plus, d'aller voir les écrits de ce saint, de cette sainte. Eh bien, moi, le but, c'est qu'on ait envie de se plonger un peu plus dans la vie du saint ou de la sainte, ou de ses écrits. C'est juste être appelant.
Qu'est-ce que le scénariste de BD apporte au prêtre et qu'est-ce que le prêtre apporte au scénariste de BD ?
Le prêtre apporte au scénariste de BD le fait de ne pas partir trop en vrille, si on peut dire, de ne pas partir dans n'importe quoi dans la bande dessinée, parce qu'il peut y avoir tous les sujets. En fait, le prêtre permet au scénariste d'évangéliser par la bande dessinée. Et je dirais, le scénariste permet au prêtre d'évangéliser son imaginaire, c'est-à-dire d'avoir des pensées, et puis évangéliser et des pensées avec des bulles, et des paysages, et des histoires. Mais je n'invente finalement pas grand-chose, parce que Jésus a fait ça bien, bien avant, avec les paraboles, et puis ça existe aussi dans l'Ancien Testament. Et puis, ceux qui concevaient les vitraux faisaient ça aussi, c'était un peu les premières bandes dessinées religieuses.
Et comment vous choisissez le sujet de vos BD ?
Des dessinateurs ou des dessinatrices qui ne sont pas croyants. Donc le but est aussi que le saint ou la sainte qui va être choisi puisse parler au dessinateur. Donc en ce qui concerne Benoît Labre, la dernière qui est sortie, lorsque j'ai vu le dessinateur, je me suis posé la question de savoir quel saint pourrait lui parler. Voilà. Comme j'avais envie de faire une bande dessinée sur Benoît Labre, je cherche un peu dans le catalogue des saints et je me suis dit, tiens, Benoît Labre pourrait parler à Erwan Le Saïc qui a dessiné donc cette bande dessinée.
Et quelle a été leur réaction quand vous leur avez parlé des différents projets ?
D'abord, c'est aussi un travail, donc c'est aussi quelque chose d'alimentaire. Je leur dis toujours, vous savez, dans votre cursus, ça va être une bande dessinée catholique, donc peut-être que ça pourrait éventuellement vous porter ombrage. Et puis en fait, non, ils disent, pourquoi pas. Il y a une certaine ouverture chez les auteurs de bandes dessinées quand même, pour la plupart. Donc le fait d'avoir un homme aussi qui s'est donné pour les autres, qui a une vie un peu exemplaire ou une vie pas banale aussi, ça peut leur plaire.
Et vous, comment vous arrivez à gérer donc votre activité de scénariste de BD et votre activité de prêtre ?
Mes temps libres servent uniquement à ça. Donc dans la recherche de documents ou la création d'histoires. Mais les bulles ou les planches, c'est-à-dire les cases, les dessins, viennent souvent au cours de la prière. C'est alimenté, ça fait un peu d'une certaine manière, parce que j'ai par exemple un flash qui arrive lorsque je dis mon bréviaire, ou alors que je suis en oraison, ou il y a des choses comme ça. Donc je note, puis je laisse dormir, et puis après ça ressort, mais parfois même après plusieurs années. Voilà, je dis tiens, un jour je vais faire une bande dessinée sur tel ou tel saint. Par exemple, j'ai un projet assez lointain que j'aimerais faire, sur une jeune fille qui s'appelle Satoko, qui était japonaise et qui était un petit peu l'abbé Pierre après Hiroshima au Japon. Alors je sais que je ne le ferai pas tout de suite, mais il y a des idées qui arrivent pour dans quelques années.
Et au niveau donc de vos lecteurs, est-ce que vous savez un petit peu quels sont vos lecteurs ?
Je pense que pour la plupart, il y a des adultes. Et puis des adolescents, des grands adolescents. L'une des prochaines sera pour les plus jeunes, mais en général, je m'adresse surtout aux adolescents et aux adultes.
Et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez reçu le premier prix international de la bande dessinée chrétienne au Festival d'Angoulême ?
Alors d'abord, j'ai été surpris parce que je trouvais qu'il y avait de beaux albums en compétition, donc j'ai été heureux qu'elle reçoive ce prix. Je ne la considère pas comme meilleure par rapport à une autre, mais simplement, c'est une reconnaissance pour aussi, c'est un petit clin d'œil, on va dire. Je pense que le bon Dieu m'encourage dans cette voie. C'est un petit message que j'ai reçu. Et je crois que Aristote disait, il vaut mieux être aimé qu'honoré. Donc si c'est une preuve pour les gens qui ont lu cette bande dessinée qu'ils ont aimé, j'en suis le plus heureux. Le plus beau compliment que j'ai pu recevoir avec cette bande dessinée, c'est une personne qui m'a dit, je ne regarde plus les SDF de la même manière.
C'était Christophe Adevis, prêtre et scénariste de bande dessinée, des propos recueillis par Audrey Radondi. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. When was all this? When that all began?